Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille ou www.campuslille.com. De l'aventure et de l'adrénaline au menu du magazine aujourd'hui avec Steve Perlinski. Steve, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors pourquoi de l'aventure et de l'adrénaline? Parce que tu as pris le départ le 28 décembre dernier de la 16e édition de l'Africa Eco Race. C'est, voilà, c'est un rallye, c'est le rallye mythique, hein, c'est l'origine du Paris-Dakar.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'ils ont essayé de reprendre cet esprit d'époque et de traverser surtout la Mauritanie qu'on ne traverse plus depuis plusieurs années.
Alors le programme c'est Maroc,
Mauritanie, Sénégal. C'est environ 6000 km de rallye, dont plus de la moitié de spécial. Donc c'était vraiment une grande aventure, c'est très long, très dur.
Et c'était une première pour toi.
Et c'était une première avec zéro expérience en tout cas.
Tu nous raconteras un petit peu quelle idée, quelle mouche t'as piqué de partir, de faire cette épreuve, ce rallye. Hein, c'était un pari.
Ouais, on a toujours des idées un peu à la con.
À la con.
C'est vraiment parti d'une connerie, ouais. Mais on a été au bout de la connerie.
C'était 4 dans une soirée, c'était en début 2024, je crois.
Voilà, ouais, exactement.
Et vous vous êtes dit, tiens, pourquoi on ferait pas
l'Eco-Race à horizon 10 ans. Pour finir, c'était un peu plus vite.
Ouais. Voilà, t'as quand même terminé 14e. Hein.
Ouais, inespéré. Si on m'avait dit ça un an plus tôt, j'aurais signé tout de suite.
Chapeau, si vraiment.
C'était vraiment pas le but de faire un classement, c'était d'aller au bout. Oui. Et le classement qu'on a fait est vraiment super parce qu'il n'y avait pas beaucoup de novices devant. C'était vraiment que des pilotes expérimentés avec beaucoup d'expérience, quoi. Nous, on est arrivé comme un cheveu sur la soupe et on a fait vraiment une bonne année de préparation. Et je pense que c'est le plus important. Et ça a apporté ses fruits.
C'était la première fois que tu es allé en Afrique, hein.
J'avais fait un petit stage en mars, en fait, pour découvrir l'Afrique, justement. Exactement.
Ok. Bon, écoute, on a 90 minutes pour en parler. Bon, l'autre acteur de cette aventure, c'est Bruno, c'est papa.
Ouais.
Bruno
Perlinski.
Bruno, bonjour.
Bonjour.
Alors toi, c'est pareil, tu as fait, mais avec l'assistance. Hein, c'est toi qui faisais de la mécanique à Steve.
On a fait l'assistance, on était à deux donc dans le fourgon. Oui. Et on n'avait pas trop le choix, c'était une idée de Steve et il fallait trouver quelqu'un pour faire la mécanique, assurer tout le suivi. Quoi. Donc il nous a traînés dans cette aventure, une superbe aventure du reste.
Hein. Toi, pareil, tu ne connaissais pas l'Afrique, hein, c'est la première fois que tu es allé en Mauritanie, Sénégal. Alors
surprenant. Surprenant. Donc les pistes.
Tu nous raconteras un petit peu tous les péripéties. Hein, parce que c'était avec un sprinter, une remorque, avec combien de pneus sur le toit, tu nous as dit
30 pneus pour les motos et deux roues de secours pour le fourgon. Et voilà quoi. Donc. Il faut prendre groupe électrogène, compresseur, le matériel, post-assuré.
Ah oui, tout le matos dans le camion,
Barnum, donc faire les liaisons et préparer tout le campement pour l'arrivée
pilotes. Oui, pour l'arrivée des pilotes, voilà.
Partir après, arriver avant.
C'est
la théorie, ouais.
Et alors voilà, notre rendez-vous aujourd'hui au menu de cette émission, c'est nous avons rendez-vous avec Yves Coutel. Yves, bonjour. Pour le micro.
Bonjour.
Voilà. Voilà, alors toi tu vas nous parler d'un film chinois qui est sorti récemment sur les écrans. Alors c'est l'histoire d'un homme, d'un chien et de la moto, hein, bien sûr, forcément.
C'est à peu près ça, oui. Ah ouais. C'est la Chine profonde, le western en Chine, c'est-à-dire l'ouest de la Chine, désert de Gobi, un chien.
Oui, oui.
Et un motard. Et un motard qui sort de prison.
Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Alors j'ai vu un peu la bande-annonce, ouais. Bon, c'est spécial,
un ovni dans les films. Ouais. Il a été récompensé à Cannes dans la sélection de Un certain regard. Mais c'est un très beau film. C'est un très très beau film.
Très bien. Et tu vas aussi nous parler l'anthologie des bouquins de moto.
Oui, exactement. Comme j'étais un peu en panne d'aspiration, puis je voulais carrément arrêter, puis je m'en vais sur Paris et je trouve un bouquiniste. Et ça s'appelle Full Patch. C'est les bikers quand ils sont.
Oui.
Tu vois, les clubs moto. Oui. Et c'est la bibliothèque. Alors, sous-titre, la bibliothèque du motard sauvage.
Ah oui.
Et avant, il y avait eu.
Tout un programme aussi, ça.
Les films du motard sauvage, oui. Donc ça a été écrit par Jean-William Touy, qui est fondateur du groupe Bijoux, qui avait créé aussi un club moto dans les Yvelines, qui a un motard invétéré. Puis ça parle de, oui. Ça reprend à peu près 300 titres de bouquins sur la culture biker.
D'accord, très bien. Merci Yves. Et puis pour terminer, on fera une séquence avec sur les deux premiers Grands Prix qui se sont déroulés là en Thaïlande et puis en Argentine, avec notre champion du monde, Nicolas Poiret. Salut Nico.
Salut la Miche. Ouais, bah oui, en fait, quand on donne la meilleure moto au meilleur pilote, faut s'attendre à l'arrivée devant.
Le championnat du monde, il va être chiant parce que si c'est à chaque fois Marquez.
Exactement.
Alors, Marquez plus Ducati.
C'est la fratrie.
Ça va pas être marrant pour nous. Il n'y a plus de suspense. Ouais.
Enfin, il joue quand même avec nous. On verra qu'il joue quand même avec nous.
Voilà. Ok, très bien. Et ben voilà, vous écoutez Campus Lille sur le 106,6 ou www.campuslille.com. À la technique et programmation musicale, on salue notre pilote d'émission, Laurent. Et on se retrouve dans quelques instants, juste après notre premier morceau de musique.
Love my fast.
Bon, Steve, cette histoire de rallye Africa Eco Race, enfin, on rappelle aux auditeurs, c'est l'ancien Dakar, hein, Paris-Dakar.
Oui, exactement.
Ah, c'est ça, c'est le...
Ouais.
C'est le seul Dakar qui va à Dakar.
Exactement.
C'est le seul Dakar qui va à Dakar.
C'est la vraie route pour Dakar.
Il y en a un deuxième qui se passe en Arabie Saoudite. Hein. Ouais. Voilà. En fait, l'histoire commence en 2023, en juin 2023.
Ouais. Hein. Bah, après une décision de forcément avec les enfants, ça, d'arrêter un peu la piste et de faire des projets d'aventure avec mon coach Charles Willow.
Je vous ai dit, parce que depuis 20 ans, tu as suivi ta passion de la sur la piste, la moto, de la moto. Hein, et en tournant en rond pendant plusieurs tours avec un seul but, c'est de finir premier.
Voilà.
Hein. Et là, tu t'es dit, je vais changer parce que j'en ai fait le tour.
Je voulais plus trop faire de la course. Hein. Le but, c'était vraiment d'arrêter de faire de la promenade entre copains.
Voilà. Entre copains, oui.
Que de la promenade, et c'est un peu dérivé, en fait.
Ça a beaucoup dérivé.
Ça a beaucoup dérivé. Forcément, bon, on se motive avec mon pote pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme aventure, comme longue route, en fait. Et puis, on se met à regarder, forcément, les vidéos de Lolo Cochet sur Internet. Du coup, Lolo Cochet, qui est un bon journaliste, qui participe à plein d'événements comme ça pour les faire découvrir aux gens. Et du coup, on découvre cette Africa Eco Race. Et on se dit que tiens, ça a l'air sympa, rouler dans le sable.
Oui.
Donc ça part d'une idée à la con, mais à la base, on
de loin, ça a l'air sympa, ouais. Ouais.
On va s'acheter un petit mono, une 690 KTM, un truc à la con. On se dit que même si c'est pas possible, nous, on va le faire. Sans se rendre compte. Heureusement qu'on l'a pas fait. Et donc on avance comme ça et on se monte ce projet à 3-4 ans. Bien sûr, à 4-5 ans, le temps de préparer.
À 3-4 ans.
Déjà, trouver l'argent.
Ouais. Oui, il y a le budget.
En fait, à force d'en parler, le projet Dakar plaît à de nombreuses personnes. Et on a de nombreux sponsors qui sont manifestés pour y aller tout de suite, dont un principal qui est TTM Consulting, sans qui on n'aurait pas été. Et en fait, qui s'est jeté dans l'aventure et qui a dit on y va tout de suite. Quoi. Donc, si tu veux, je me suis retrouvé un peu pris au piège. J'avais toujours jamais touché une moto de tout terrain.
Ouais.
Et on savait que dans un an, on serait à Dakar. Donc on a dû mettre en place un programme express.
Au départ, vous étiez combien
Au départ, on était deux.
Après la décision de faire le Dakar.
On voulait être deux. On ne connaissait pas trop ce que ça représentait en termes de prix. Et c'est qu'en avançant, en fait, qu'on s'est rendu compte que c'était un peu plus que ce qu'on avait pensé. Et donc le deuxième a lâché
donc
un peu.
Juin 2023, il te restait un an et demi, quoi, en gros.
Exactement,
hein,
voilà, ouais.
Avant de prendre le départ de ce fameux rallye.
Voilà, donc la première chose, pour avancer dans cette histoire, on s'est dit il faut acheter une moto tout de suite, il faut essayer le tout-terrain. C'est la première
étape. Oui, parce que tu n'as jamais roulé en
tout-terrain. J'ai jamais roulé en tout-terrain. Ouais. Du coup, on est parti acheter courant août-septembre une moto de tout-terrain.
Ouais.
Et commencer le tout-terrain. Tout simplement.
Et tu étais où? Tu étais à Lumplage?
J'étais à Lumplage, j'ai fait une première sortie sur un terrain de cross, ce qui s'est bien passé. Hein.
Ouais.
Ça a été, et après c'était direction.
Oui, alors le cross, c'est de la terre là-bas, c'est plus ou moins du sable.
Oui, mais c'était pour avoir un premier contact, quoi.
Voilà.
Et surtout avec la moto. Le but, c'était d'enquiller un nombre de kilomètres avec la moto et de prendre des bases, quoi. Et après, non, c'était un gros entraînement à Lumplage où j'ai eu beaucoup de difficultés. Le sable, c'est très très dur, surtout sans maîtrise de la moto. Du coup, c'était. J'étais 5-6 fois à Lumplage m'entraîner. Donc déjà, essayer de finir un tour à la base.
Avec la KTM, hein,
avec la 450 XC de base enduro, quoi, homologuée.
Et parce que tu as dû acheter deux motos, hein, c'est ça la moto d'entraînement.
Il y avait la moto d'entraînement donc, pour la faire tomber et pour apprendre. Et la vraie moto de course, donc, qui est un peu des compé clients, préparés spécialement pour les Dakar. Donc qui sont déjà avec 35 litres d'essence, 3 réservoirs. Des commutateurs dans tous les sens.
Donc, qui est plus lourde que la moto d'entraînement,
alors. Qui est beaucoup plus lourde. Ouais. On l'a pas pesée, mais normalement, elle est indiquée comme 190 kg tout plein fait. Donc, c'est pas une moto légère. Mais par contre, elle n'a pas du tout, elle a pas le même empattement, elle est plus longue, elle est vraiment conçue pour rouler à 150 dans le désert.
Oui. Et donc, alors entre rouler à 150 et puis rouler à Lumplage, c'est pas pareil, parce que tu peux pas rouler à 150 à Lumplage.
Non, pas du tout.
Donc il y a aussi là, il faut que tu trouves un moyen pour trouver des pistes où tu roules à cette vitesse-là.
Donc la première étape, c'était de se rendre compte de dans quoi on se lançait, parce qu'on pouvait encore faire marche arrière à ce moment-là. Et on s'est dit, on va faire un stage en Tunisie, un vrai stage en Afrique, pour voir déjà ce que ça donne. Donc on a fait ce stage. J'étais au bout, mais pas sans mal. C'était pareil, là j'ai voulu aller vite comme sur piste et je me suis fait surprendre par le désert parce que c'est dangereux partout. Donc j'ai pris des grosses
gamelles. Il y a des petits rallyes comme ça, il y a le Hellas Rallye, c'est en Grèce aussi, hein, je
mais
pense.
Mais c'est pas du tout pareil.
Ouais.
Ça reste du. Il fallait faire les deux pour apprendre.
Mais pour se mettre en. se mettre en bouche, hein,
exactement,
pour, bah, pour, faire, la, pour se faire la main un peu
pour
déjà,
faire un rallye officiel,
ouais, ouais,
en fait,
c'est
parce
ça,
que
ouais,
le stage
ouais.
qu'on a fait, ça reste un stage, on fait de la navigation mais il n'y a pas de chrono, tandis que le LS Rally on l'a fait vraiment avec unique but de faire un vrai rallye officiel, de voir comment c'était timé, comment ça marchait, les checkpoints comme on appelle, et de faire surtout les erreurs pour ne pas les reproduire à l'Afrique.
Ah, oui.
Et c'est ce qu'on a fait, de toute façon. On a fait toutes les erreurs possibles au Hellas Rally, à vouloir aller trop vite, à louper des checkpoints, prendre des pénalités tous
alors,
les jours.
Alors, il faut apprendre la navigation, forcément.
Ouais.
Hein, ça, c'est, voilà. Il faut que physiquement, tu te... faut ouais. que tu ailles à la salle de muscu. Hein.
Ouais, ce qui était
ce que tu
ne
faisais pas avec la piste.
La piste, c'était plus
tout
peu... Non, c'était plus de l'endurance, on arrivait à tenir 20 minutes.
Voilà.
Tandis que là, c'est vraiment du renforcement musculaire.
Alors...
3-4 fois par semaine quoi.
Bon. Et tu travailles forcément, t'as un boulot.
Ouais, j'ai un boulot donc, qui est assez arrangeant. Donc j'ai quand même pu aller le midi m'entraîner quoi.
Alors il faut que tu apprennes la navigation, il faut que tu ailles à la salle de muscu, il faut que tu t'entraînes avec la moto.
C'était une grosse année.
C'est une grosse année pour toi.
Et il faut la préparer en même temps.
Et il faut trouver les sous aussi, le budget.
Il faut trouver les sous, ouais.
Voilà.
Ouais.
Alors
on part de rien, c'est vrai que bah, beaucoup de gens ont accroché, c'est que par rapport à la piste, j'ai jamais été aussi soutenu. Donc c'est un projet qui a vraiment mobilisé beaucoup de personnes et c'est pour ça que c'est une belle aventure humaine. Il y a eu vraiment, vraiment pas mal de gens qui ont contribué et sans eux, j'aurais jamais pu y aller tout simplement.
Il faut aussi connaître le maniement des commandes sur la moto hein, parce
ouais.
que tu as on a y a une espèce de tablette ouais, où il y a le programme tout
ouais.
ça de la journée hein.
Ouais.
Donc tu dois je suppose que tu dois te former à ça.
Bah ouais, on se forme, après c'est assez instinctif, hein. Là où il faut plus apprendre c'est vraiment l'interprétation des chiffres qu'on nous donne, de voir ce qu'on en fait, et du lexique. En fait les images, quand on dit, bon si on le dit comme ça, 300 mètres à droite ça paraît simple,
ouais.
mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à regarder, quand on se trompe il faut se recaler en permanence, donc si on se met à couper les virages sans cesse, forcément on va pas faire le nombre exact de mètres, donc c'est pas précis, faut apprendre à interpréter.
Alors avant de prendre le départ, t'avais formé un petit peu à lire un peu sur la tablette,
ouais.
le parcours, comment
ouais, 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 bah avec comment le Hellas Rally et puis
ouais,
le stage
oui.
en Tunisie,
oui.
et on avait refait un petit stage express juste avant de partir au Portugal, à la Wims Motors Academy,
oui.
Où on a fait 3 jours de roadbook intense, et c'était une super préparation avant de partir.
Voilà, et donc le moment où tu ne pouvais plus reculer, parce que là tu avais pris l'inscription, ouais. c'était
ouais.
quand?
Ah ben, on l'a pris en janvier.
En janvier 2024.
On pouvait faire
hein.
demi-tour, mais on avait déjà pris la préinscription
ouais.
quand même.
Ouais, la préinscription.
Et après on a commencé.
Et une fois que tu as pris la préinscription, tu ne peux pas te faire rembourser, tu dis
si.
Oh, non, finalement j'y vais pas.
Si, ou... parce qu'on commence véritablement à payer vers août-septembre. Paye pas tout de suite.
Ah oui.
Donc on pouvait encore faire marche arrière.
D'accord, tu pouvais encore faire marche arrière.
Ouais.
Donc, mais non, comme t'es têtu.
Ouais. Hein. Non, non. Bah, et puis comme on n'a pas eu de problème, en fait, c'est vrai que si on s'était cassé une jambe ou un truc en apprenant, bon, on aurait
oui.
fait demi-tour. Mais là, c'est
oui,
vrai
peut t'arriver
un an,
une centaine il de peut gamelles. T'arriver des choses.
J'ai passé 4 casques, mais c'est vrai qu'on a eu de la chance de pas se blesser. Donc,
oui.
Donc on est allé au bout.
Très bien, Bruno. Alors on parle de la moto, mais on va
oui,
parler aussi de. Il faut penser donc à l'assistance.
Oui,
hein
exactement.
Le fiston s'engage. Il faut un mécano.
Il faut un mécano.
Il faut quelqu'un qui suive avec les pièces tout
préparer
ça.
Préparer la moto toute l'année avant.
Ouais, ouais. Donc les fixations bon. De tablettes, etc.
Alors,
donc,
okay. bon, bah, écoute, je propose de passer un peu de musique et puis on va enchaîner directement sur le 31 décembre, hein, parce que le rallye, il est parti de. Vous étiez rendez-vous, c'était à Monaco. Hein,
ouais, exactement.
Monaco,
ouais.
et vous preniez le bateau à 7.
C'était même en Italie le rendez-vous.
Comment
on a commencé d'abord en Italie pour les contrôles techniques.
Oui, en Italie, contrôle technique. Hein.
Voilà.
Et après Monaco, bateau à 7, et vous partiez,
ouais.
Vous prenez le bateau, 2 jours de bateau
ouais,
pour arriver au Maroc, à Tanger.
Oui, exactement.
Hein. Alors c'est juste après le morceau de musique.
Ouais.
À tout de suite.
Close my eyes.
Ah oui, c'est pas la moto pour faire
le. Il n'y a pas eu beaucoup de temps.
Voilà, ça c'est pas bon. Hein. Voilà. Bon, Steve, est-ce que tu t'en es remis dès là? Ça fait 2 mois qu'il est rentré. Hein, parce que c'était
ouais, ça commence.
Du 31
commence.
Décembre au. Combien
22
au,
janvier.
Au 14 janvier.
Ah oui, le camion, le 22 janvier qu'on a récupéré. Ouais,
ouais. Au 14, hein, ça devait être un bon 2 mois.
Ouais, on est parti de 3 semaines.
Est-ce que là, tu as eu le temps de.
Bah, ça commence. Il reste encore des
petites
douleurs.
Non, parce qu'à Pascal, tu m'as dit, je suis encore dedans avec tout ce que j'ai fait, la préparation, l'année de préparation,
dedans,
plus la course, hein, plus le rallye. C'est dur de.
Et puis on continue à la nettoyer, à faire des résumés, envoyer les remerciements, en fait, trier les photos. Donc on est quand même toujours un peu dedans.
Là, t'es encore un peu dedans.
Oui, bien sûr. Toute l'année, on sera dedans.
Là, très bien. Oui, parce que tu vois, tu fais des émissions de radio et tu racontes ton histoire. Ouais. Voilà. Bon, alors, Monaco, tu prends le bateau donc à 7, 2 jours de bateau, et vous arrivez des problèmes sur le bateau, non? Vous n'avez pas des soucis?
Des soucis
Je crois que t'étais malade.
On était à 4 dans une petite cabine, c'était un peu exigu, il y avait
Steve c'est un petit souci.
Et le brassage, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui venaient de partout dans le monde, hein. On a vraiment eu au niveau international, donc je pense que le brassage de microbes a été pas mal.
Ah, de microbes, oui.
Ah, parce qu'il y a eu des petites grippes qui en sont sorties, il y a des mecs qui n'ont pas pris le départ, hein.
Oui. Alors sur le bateau, tous les pilotes, tous les participants sont sur ce bateau là, ou ils prennent un autre bateau, un autre jour, ou...
avec briefing.
Sur tout le monde, que ce soit l'assistance, les cuisines, en fait, toute l'infrastructure, tout le monde prend le même bateau.
D'accord.
C'était les kinés.
Et c'est là que tu vois, tu jauges un peu le véhicule, les...
On ne se rend pas encore trop compte. Nous, on ne connaissait rien.
Comment sont équipés les autres concurrents?
Non, on ne se rend compte de rien en fait.
Non. On attend.
On est loin de savoir ce qui nous attend.
Ouais.
On est tous ensemble, on prend le bateau, mais en fait, on
se raconte des histoires. Il y a
des briefings.
C'est encore les vacances.
T'as encore la banane. Tu souris là.
Non, t'as pas la banane. T'as plus un peu la hantise, hein, parce que tu sais toujours pas ce qui va se passer en fait.
Toi, on rappelle que c'est la première fois. Hein.
Exactement.
Je suppose qu'il y a des pilotes que ça fait peut-être la 10e ou 20e fois qui font ce rallye.
Ouais, bien sûr.
Donc eux, ils ont l'expérience. Et eux, ils savent. Ils savent ce qui t'attend.
On ne sait pas ce qu'on va faire, en fait.
Voilà.
Ouais, c'est vrai. Hein.
Ça peut tellement mal se passer de plein de manières, que ce soit les gamelles, que ce soit ce père, que ce soit la mécanique.
Alors, on arrive au Maroc, hein, Tanger. Hein, 700, alors là, ça commence bien, parce que c'est une petite mise en bouche. 755 kilomètres.
Ouais, avec une
dont 47 de spécial.
Ouais.
Donc alors tu
donc on part du bateau.
Comment c'est au Maroc, au début c'est sur de la route.
On sort du bateau, on prend la route, on a fait aller à peu près 100-200 bornes je pense pour aller jusqu'au début de la spéciale.
Voilà.
Et là donc on prend notre première spéciale sur le bord de la mer, vraiment type le Touquet, c'était vraiment la plage.
La plage du
donc,
sable.
Toute petite spéciale.
Oui.
Mais qui a fait le tri parce qu'elle était très très harde, du sable très très fin.
Oui.
Et du coup, j'ai fait mon premier airbag au bout de 20 km.
Ah oui, parce que tu étais équipé d'un airbag. Oui.
Bah ouais, on voulait airbag obligatoire.
Ah, c'est obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire.
T'essayes de remettre tout ce que tu as appris à Lune Plage, mais qui est déjà pas du tout avec la même moto.
Oui, donc, parce que t'as la moto de compétition.
Voilà, on avait fait le choix de
s'entraîner avec. Celle qui est plus lourde, celle qui est équipée de 3 réservoirs en plus.
Celle qui est plus lourde, on l'avait pas essayé non plus.
Oui, tu l'avais pas essayé. Tu découvres.
Il y a 6000 km, donc même si on perd 500 km à faire connaissance, c'est pas grave. Donc on avait fait ce choix-là et c'est pour ça que la première manche c'était vraiment très très dur.
C'était fait exprès pour éliminer justement ceux qui ne sont pas prêts.
Oui, exactement. Non, ça a bien fait le tri. Ouais.
Ça a fait le tri déjà.
Ouais. Et pas beaucoup de naves, mais c'était quand même assez compliqué.
Alors qu'est-ce que tu dis quand tu t'enchaînes, t'antiques sur cette étape-là?
Rien.
Tu dis rien, tu dis mais qu'est-ce que je fous là, non?
Non, pas du tout, ça s'est bien passé. Tu te dis c'est chouette, c'était 47 km, c'est ça la spéciale. Donc tu dis
la spéciale, c'est fou.
C'était déjà intense.
Et
on a fait 47 bornes.
T'as fait 47 bornes.
Donc j'imagine pas quand on doit refaire 10 fois plus. Parce que là, ça faisait déjà l'impression d'avoir fait une bonne spéciale. C'était rien. Et du coup, quand on ressort de là, tu reprends la route, tu ensuite en roadbook. Donc je pense qu'on a refait 400 km par la route.
Et là tu apprends aussi le roadbook.
C'est toujours par navigation. Les liaisons, c'est toujours on suit la navigation. Et là, on est repassé par les montagnes. Donc on s'est tapé, il y a eu de la neige.
T'as eu de la neige. Alors tu n'étais pas équipé pour le froid.
C'est les gants motocross, c'est du textile tout simple.
Donc t'avais les doigts complètement gelés.
Frigorifiés. Non, c'était long, on est rentré tard.
Il n'y avait pas de poignée chauffante sur la KTM.
C'était le 31, donc c'était ce soir-là. Je pense qu'on devait faire le nouvel an, mais bon.
Oui, alors 31, c'était et au soir, c'était le nouvel an. Alors on veut passer toute cette première année, c'est le nouvel an. Qu'est-ce que vous avez eu au nouvel an?
Du foie gras.
Oui.
On a eu du foie gras.
C'est bien l'organisation, elle est sympa.
Dans le paddock, dans le désert là.
On est arrivé après le buffet. Hein. Ouais. Quand même. On est arrivé parce que tu arrives quand il fait noir, on a fait le choix, on s'est occupé tout de suite des motos. Au final, on est arrivé pour faire leur repas du Nouvel An. Ils étaient en train de tout ranger, en fait. Donc on a réussi à avoir une assiette vite fait pour manger, mais c'est vrai qu'on l'a pas.
Ah, parce qu'ils attendent pas les derniers pilotes qui sont
pas les derniers, mais en retard, je pense que...
Non. Ah ouais, non, mais là c'était assez étalé, hein, parce que disons que 700 km même pour nous, pour l'assistance.
Il y a des mecs qui se sont quand même perdus sur les liaisons sur la route.
Oui.
Ils ont refait en plus des 700, ils se sont rajoutés des 200 km.
Hein. Ah oui, donc il y a 750, tu passes à presque 1000 km alors.
Exactement, la première journée. Ouais.
Ouais, pour la première journée.
Et quand on est arrivé donc, sur le paddock, tout de suite après 750 km, vidange des motos, filtre à air, l'entretien. Donc si tu veux, on a essayé de faire tout ça avant d'aller au buffet.
Ouais.
Donc après avoir entretenu les motos, on avait plus envie d'aller se coucher parce que le lendemain c'est pareil, on repartait tôt, quoi. Voilà, et exactement. En plus, comme les départs se font en fonction de l'ordre d'arrivée, comme Steve était arrivé dans les 20 premiers, il partirait le lendemain dans les premiers, donc tôt. Donc
première étape, tu étais arrivé dans les 20 premiers.
Je me souviens pas du tout. Plus. Non, on n'a vraiment pas regardé les premières étapes. On a vraiment roulé tranquille.
Donc tu te dis, le principal, c'est de terminer.
Ouais.
Quoi.
Ouais, c'est ça. Donc on s'arrêtait. Enfin, je m'arrêtais pour pisser. Il y avait des mecs en rade. Je m'arrêtais pour m'aider à les relever. On n'a vraiment pas fait la course sur les 5-6 premiers jours.
D'accord. Et donc, les temps, c'est sur la spéciale ou c'est sur l'ensemble de l'étape ?
Que sur la spéciale.
Ouais.
En fait, les liaisons, ils ne servent qu'à avoir des pénalités, mais tu ne peux pas gagner de temps.
Ouais.
Voilà. Donc, les liaisons, il faut juste arriver dans le bon timing. Il faut juste être là pour ton départ de la spéciale.
D'accord. Et donc là, tu commences à voir les concurrents, les autres, ceux qui ont un peu d'expérience déjà.
Je vois que ça roule très très vite.
Ça roule vite,
Ils ont tous l'habitude du motocross, donc même ceux qui n'ont jamais fait de rallye, ils sont tout de suite à
l'aise. Et toi, ton expérience de la piste, ça ne sert à rien là, dans le rallye ?
Elle me sert au niveau mental. Elle me sert pour le mental parce que c'était une course au mental, c'est de l'endurance. C'était pas une course de vitesse. Donc ça m'a quand même vachement servi parce qu'il y a beaucoup de mecs qui faisaient du motocross, mais qui n'ont aucune expérience de la course.
Oui.
Donc des mecs qui sont un peu emballés, qui sont tombés, qui se sont perdus. Je pense que c'était un gros plus, l'expérience de la course. De savoir gérer une course.
Savoir gérer, oui.
Voilà. Et on s'était motivé toute l'année pour ça, et on savait que dans tous les cas, les 7 premiers jours, il fallait surtout ne pas faire d'erreur pour arriver en forme en Mauritanie.
Oui, et donc, vous étiez parti à 3 pilotes hein, pour.
Oui, on faisait l'assistance pour 3 pilotes.
Pour 3 pilotes, ouais, hein, Bruno. Donc, et un des 3 déjà va te rapatrier en avion.
Oui, donc c'est le copain de Steve. Hein, c'est Steve qui l'a trouvé sur la piste.
À la première étape.
La deuxième. Pas le prologue, la première étape. Quoi. Il y avait le prologue et la deuxième étape.
Ah,
donc, il a roulé très très fort. Et ils avaient prévenu au briefing. En fait, c'était des pistes ultra rapides. Tu roules à 120-130, mais parsemé de gros cailloux au style des pavés, quoi. Donc si tu veux, c'était vraiment dangereux de rouler vite.
C'est là que tu dis que c'est dangereux, hein, parce tu les vois pas. Oui, c'est la roulette russe. Hein. Tu dis que c'est très dangereux parce que il y a un caillou que tu vois pas, il y a du sabot dessus, et parce que tu roules à 160 quand même.
Exactement.
Hein, c'est ça. Hein.
Ouais. On est limité à 150, du coup, sinon on prend des pénalités. Et du coup, la Tony, avec qui on était, il partait devant moi. Hein, je me suis retrouvé un moment devant lui, je l'ai vu me redoubler. Donc je me suis dit qu'il avait dû se perdre. Donc si tu veux, il a dû vouloir accélérer pour remonter. Et si tu veux, d'un coup, moi je suis arrivé derrière. Il était allongé en plein milieu de la piste.
Ah oui.
Il bougeait plus. Le casque cassé en deux, tout ça. Donc
j'ai été
le voir.
Carrément.
Je demandais si Tony, ça va. Et pas de nouvelles. Si tu veux, il bouge pas, il parle pas. Bah, tu te dis, il est mort. Il est mort. Du coup, j'ai été appelé l'hélicoptère avec la balise de secours.
Oui, comment ça marche ? Vous avez des balises ?
On a une balise, donc on appuie sur des boutons et il communique avec nous instantanément. Est-ce qu'il y a besoin de médecin, tout ça ? Donc j'ai prévenu tout de suite. Après, il a recommencé à bouger et finalement, ça a été. Mais est-ce que c'est peut-être ça qui a conditionné toute la course ? Est-ce que sans ça, j'aurais pas été plus vite, en fait ?
Ah oui.
On sait pas.
D'accord, c'est l'expérience, en fait.
On a eu les favoris aussi qui sont partis aussi en hélicoptère.
Et alors, quand tu t'arrêtes, tu perds du temps. Donc,
en fait, dès que tu t'arrêtes pour aider quelqu'un, ton temps est décompté.
Ouais.
Donc, tu peux t'arrêter une heure, deux heures, on s'en fiche.
Donc tu peux rester avec lui tant que les secours arrivent.
Exactement.
Voilà. Donc effectivement c'est. Alors on passera à quelle heure ? On va passer à un morceau de musique, je te propose, parce que on a la première étape, c'est la mise en bouche, hein, voilà. Après avoir mangé le foie gras, hein, au nouvel an, hein, voilà, après avoir secouru le copain là, et voilà. 1er janvier, hein, c'était. Ça c'est à 357 km. Mais il y a quand même 319 km de spécial.
Ouais, c'est énorme.
Et là c'est énorme là. Ouais. C'est 319 à Donf.
Pas forcément.
Pas forcément.
79 ouais. Où tu fais la course.
Oui.
Mais il n'y a pas que de la partie rapide, tu as de la partie où tu peux être à 20 km/h pendant 50 km.
Ah oui.
Il n'y a pas que de la partie rapide.
Tu nous parleras un petit peu des ouais. différents terrains.
Ouais, exactement. Hein ouais.
Voilà, bon, alors on passe un morceau de musique, ouais. On se retrouve juste après. Ouais. Magazine de la moto, c'est tous les dimanches, c'est sur Campus à partir de 11h. Bon Steve, voilà, on est toujours au Maroc. Mais tiens, il faudra que tu nous racontes un petit peu, parce qu'il y a des, il y a le vocabulaire est dédié pour qualifier les concurrents. On doit surfer dans les ergues.
Ouais, j'ai alors les airs, le
ouvrir les gaz dans les chiottes,
ouais.
Dans pas les chiottes, hein, les chiottes.
Ouais, exactement. Ouais.
Mais, c'est quoi tout
j'ai
ça
J'ai le même vocabulaire, mais j'ai jamais compris.
Les règles, hein. les barcanes.
Ouais.
C'est quoi tout ces termes-là hein
ouais, attends, tu sais pas aucune idée, toujours pas. Je les ai vus pareil que toi sur les trucs.
Alors et... le fèche-fèche, on suppose que c'est.
J'ai supposé aussi, mais je sais toujours pas. Ouais.
Sable mou, hein,
c'est sable mou, fèche-fèche, c'est ça
Ouais, il paraît.
Ouais. Ça, je crois qu'on sait tous. Et voilà. Donc étape après donc marocaine, tu rentres en Mauritanie.
Ouais.
Et il faut raconter aussi donc le terrain.
Hein, parce qu'il y a
des pierres, il y a du sable, il y a du sable mou, il y a du
voilà. Ouais, donc il y a une alternance en fait. On a des parties ultra rapides où du coup tu prends 150 que tu peux garder pendant 100-200 km en fait, pas en ligne droite, hein, bien sûr, tu slalomes un peu à ces vitesses-là. De temps en temps, en fait, tu as des panneaux, enfin pas des panneaux, mais sur ton roadbook, tu as des attentions parce que tu traverses des petites bandes de sable où tu es obligé de freiner de, on va dire, de 100 km/h parce que tu vas avoir des petites bosses, tout ça à franchir. Après, tu vas avoir des parties où on traverse des montagnes. Donc, c'est de la caillasse, de la pure caillasse où tu viens grimper les montagnes. Donc là, tu vas taper des petits cratères. Il faut vraiment faire attention où on roule. Tu roules dans des espèces de champs de pavés comme sur Mars. En fait, tu slalom et tu te dis, bon, on va faire la course.
C'est plein de petites pierres.
Bah, des petites ou des grosses.
Des grosses pierres, oui.
De la taille de pavé quand même.
Ouais. Pavé.
Pavé, c'est plus adapté.
Ouais. Et rouler à 160 dans les pavés,
c'est... Non, ouais, c'est pas top. Non,
non c'est non, pas non. Top. Je reconnais.
Et après, dans ce qu'ils appellent le fèche-fèche, c'est vrai que tu peux taper des petites dunettes, en fait, où tu vas rouler 10-20 km/h.
C'est fait, ça, quand on voit les pilotes là, en train de monter sur une dune, là. C'est ça, le... Voilà.
Bah ça, les grandes dunes, ça va. C'est encore...
Parce que le sable, il est mou, il est dur ou...
Il est jamais pareil. Il est jamais pareil et tu sais pas... Tu n'arrives pas à le voir à l'aspect, comment il va être. Donc si tu veux, tu sais des fois rouler vite, et des fois tu sais être en quatrième à fond, à 50 km/h. En fait, tu patines, et si tu veux, pour pas t'embourber, et de temps en temps tu roules, le sable est dur, et d'un coup tu te plantes littéralement, et tu passes par-dessus,
ouais.
Sans rien voir en fait. Et d'un coup le sable est comme de la farine. Donc si tu veux, tu n'as plus qu'à désensabler la moto et faire demi-tour, trouver une autre route. Quoi.
Et quand tu fais ça... Ah oui, donc tu refais demi-tour...
Ouais, tu peux plus avancer, t'as beau le savoir, parce que bon, forcément, tu vois des mecs tanker, tu te dis qu'il y a forcément un risque. Donc tu dis, tu vas essayer d'en mettre plus
que... Alors tu suis les pistes. Est-ce que tu suis
mais
les pistes?
Ça passe pas non
ouais.
plus.
Ah, ça passe pas, oui.
En fait, quand tu les vois tanker, tu te dis, bah tiens, ça doit être mou, on va en mettre plus. T'ouvres et au final, tu te tankes 2 mètres plus loin qu'eux, quoi. Mais ça passe pas, tu fais demi-tour, hein.
Là, au bout de, mais tu dois, au bout de 5-6 fois, tu dois t'user parce qu'il faut sortir la moto, il faut la relever.
Ouais, c'est ultra physique. Ouais. Donc, c'est que ça. En fait, tu la relèves et le but. Moi, je pense que grâce à la préparation, j'ai pas perdu trop de temps. Je suis tombé beaucoup, je me suis tanké beaucoup, mais j'ai jamais perdu trop de temps. Au final, tu perds, allez, si tu te débrouilles bien, tu perds 20 à 30 secondes. Donc, tu repars épuisé. Mais si tu veux, il faut rouler vite pour reprendre de l'oxygène. En fait, si tu t'arrêtes, tu respires plus, il fait trop chaud.
Alors au niveau de l'eau,
tu as un camelback obligatoire, oui. Tu pars avec 3 litres d'eau sur le dos, oui. Donc plus l'airbag qui fait 3,5 kg, enfin tu pars avec 10 kg sur ton dos, quoi. Et donc t'as chaud et c'est lourd. Mais du coup tu prends tes 3 litres et si tu veux, dès que tu arrives au ravitaillement, tu rebois des litres en fait. Tu te dépêches de boire tout ce que tu peux.
Et après tu pisses.
Ouais, tu pisses, ouais.
Putain, tu pisses.
Alors moi, comme je faisais pas la course, j'en profitais souvent quand t'es tanké, quoi.
Ouais.
Quand t'es tanké pour tanker, bon, tu la sors et tu pisses vite fait, au moins ça, tu perds pas trop de temps, quoi. Ça se passe comme ça en général.
Je suis sûr que les leaders mettent une couche. Comme ça arrête pas.
Non, ils mettent une sonde, bien sûr.
Une sonde,
bien sûr. Ils mettent une sonde et ça sort au niveau de la botte, bien sûr.
Ah, ça sort au niveau de la botte.
Exactement, ouais. Pour pas s'arrêter.
Pour pas s'arrêter, pour gagner du tout.
Nous, on le savait avant, mais on a fait le choix de.
Allez, t'as pas mis la
30 secondes pour s'arrêter. Ouais. Vous n'avez pas la course. Hein.
Ouais. Voilà, je suppose que t'as pas le temps de regarder le paysage. Vous passez en Mauritanie, ça change du Maroc.
Ouais, la Mauritanie, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout. C'est du vrai désert.
Ah, désert, voilà.
On a du désert marocain, mais c'est. On voit quand même des semblants de civilisation. En Mauritanie, c'est de la poussière,
y a rien.
Du sable, et il n'y a rien.
Ouais.
C'est vrai que c'est vraiment aride et. C'est vrai, hein, c'est un peu dur à décrire, hein, parce que ça reste du désert, mais c'est pas le même. C'est pas le même, c'est vraiment aride.
D'accord. Et Bruno, toi alors, tu passes comment avec le camion en Mauritanie?
On n'a pas la même route que Steve, hein,
oui, bien sûr.
On a des routes, on a un roadbook aussi, on se tape les kilomètres, pareil, hein. Sauf qu'en plus, donc on a toujours un œil sur le téléphone pour suivre le fiston, pour savoir s'il n'est pas arrêté, si tout se passe bien. Et puis une fois qu'on est arrivé au paddock suivant, je ne sais pas si on peut appeler ça un paddock, mais enfin le campement,
le bivouac,
ouais. Il faut tout déballer. Alors les 3/4 du temps, rien que pour arriver au bivouac, nous on s'en sablait. Donc,
c'est ça.
Alors sortir les pelles, les rails. Après, comme vous voyez qu'on y arrive.
Ah, vous êtes équipé
4x4 qui venait nous remorquer, le 4x4 sans sable. Enfin bon, c'était une aventure tous les jours pour nous aussi. C'était une aventure. C'était pas la même.
Oui,
pas
mais c'est la même que Steve. C'est pas la même, mais c'était une aventure quand même.
C'était une aventure. Hein. Puis après récupérer donc les motos de nos 3 pilotes, faire les entretiens, aller casser la croûte, se coucher vite fait. Et puis, allez hop, le lendemain, on met ça, on se lève à 6h du mat, et puis c'est reparti.
Tu nous parlais de changer les pneus, hein, parce que c'est des...
Ah oui, les pneus, bah, on le changeait soit en fonction des étapes, c'était de la pierre ou du sable, c'était soit tous les deux jours, soit tous les jours. Donc on avait par moto donc un jeu de jantes d'avance, donc ça me permettait de pouvoir les changer un petit peu à l'avance. Mais c'est des bibmousses. Oui. Alors les bibmousses, c'est comme si on essayait de monter un pneu avec une chambre à air gonflée. Oui. 5 démonte-pneus, une machine spéciale, hein, je ne connaissais pas avant, la Rabaconda.
Vous aviez la machine sur le, dans le camion.
Ah oui. Obligé, c'est une machine pliable.
C'est pliable, c'est un petit sac, quoi, tu déballes tout.
Donc en fonction de l'étape du terrain, tu changes...
Bah, comme on ne connaissait pas, on pensait...
Tu changes de pneus.
On avait pris un train de pneus tous les deux jours, et on pensait que c'était largement surdimensionné. Le problème, on s'est retrouvé avec des étapes où tu roules à 150 presque toute la journée, où les pneus se sont arrachés en un jour, en fait. Ouais. C'est les pneus les plus durs qui existent, mais les pneus se sont arrachés sur les flancs.
Hein. Ouais, ouais.
Alors, première étape spéciale en Mauritanie, 704 km, dont 172 de spécial.
Ouais. Hein,
donc là, ça, tu découvres, et là, c'est que dans le sable.
C'est pas que dans le sable. C'est beaucoup de sable.
Ouais.
C'est beaucoup de sable, il y a encore aussi un peu de la caillasse, mais oui, c'est du sable. Après, c'est ce qu'on disait, il y a du sable dur, du sable mou, c'est assez différent.
Ok, très bien. Ben, Bruno, toi, pour l'assistance, après, on passe au Sénégal.
Ouais.
Sénégal.
Alors, ben, Sénégal, ouais, là, c'est là où Steve s'est pris il s'est fait les marécages.
Ouais, la dernière spéciale.
Ouais.
La dernière spéciale où on voulait finir tranquille. Au Sénégal. En fait, on s'est retrouvé encore avec un autre état de surface qui était vraiment plus typé comme chez nous, comme si c'était une route en dur avec des petits gravillons. Donc forcément, j'ai pris le départ de la spéciale. Premier virage, j'ai jamais réussi à m'arrêter. Si tu veux, j'avais bien vu, hein, la moto s'arrêtait pas. Du coup, bah, j'ai tiré tout droit dans le marécage.
Oui.
Et je pensais que ma course s'arrêtait là sur une connerie, quoi. Parce que je dis, ça y est, elle va jamais ressortir. Si tu veux. Et je sais pas comment. J'ai insisté sur le démarreur. Elle a démarré. J'ai réussi à ressortir de l'eau.
Avec la moto ?
Avec la moto, avec la moto, les algues, les trucs.
Et là, t'avais perdu que 3 minutes. Hein.
J'ai pas perdu énorme. Hein. J'ai perdu que 3 minutes parce que je partais 3 minutes devant un mec et je suis reparti justement un mec qui faisait ça avec une Harley, une Panamérica.
Ah oui ?
Donc, je me suis dit, je vais essayer de finir avec lui pour finir en 2 virages.
On arrive à faire.
J'ai jamais su suivre.
L'Africa et Grèce avec une Panamérica.
Bah, pas tout le monde, mais Juan Pedrero, lui, il y arrive.
Ça me.
Je sais pas comment, et là je sais pas combien pèse la moto.
Vraiment, je suis étonné parce que c'est une moto qui est un peu lourde peut-être pour faire ce genre de choses.
Bah, je pense qu'on était à plus de 250 kilos la moto.
Ouais.
Mais un vrai colosse déjà, avec beaucoup d'expérience.
19 Dakar derrière lui.
Ouais, non, c'était pas n'importe
qui. Ah oui, quand même.
Ouais.
Je pense que nous, on se serait arrêté au prologue avec cette moto.
C'est surprenant, voilà. Et donc on va terminer, l'arrivée c'était sur la plage à La Crozes, hein, avec pourquoi La Crozes?
Parce qu'il est rose. Parce qu'il est rose, tout simplement.
C'est parce qu'il est flamant rose, c'est pas ça?
Non, c'est
les algues.
C'est les algues, ouais. D'accord. Et donc là la rallye est terminée. Hein. Il est terminé parce que
le classement est
figé. Est figé, hein.
Voilà, c'est juste.
Donc là, c'est pour
la gloire.
La gloire. Et là, voilà, tu te dis, alors là, c'est fini.
Il s'est dit, je pense que mon fils s'est dit, je vais leur montrer ce que je sais faire.
Je sais faire.
Je suis pilote de vitesse et je vais leur montrer.
Quand on imagine un départ, nous, on sait ce que c'est un départ. On se dit, un départ sur une plage, il n'y a qu'à accélérer, ça va le faire. Donc on s'est mis la veille à enlever du poids sur la moto, enlever la boîte à outils, enfin gagner du poids, tout ce qui servait plus à rien. Ouais.
Parce que là c'est 23 km. Hein,
voilà. Mais je pensais que c'était tout droit. Et en fait, en arrivant sur la plage, je me rends compte que déjà la plage elle est pas droite et que on peut pas rouler vite. En plus, je me rends compte après qu'il y a un roadbook, je pensais que c'était tout droit. Donc bon, je dis finalement on va les laisser partir les mecs, c'est pas grave. Ensuite on se met sur la grille de départ. Là si tu veux on part coller, donc t'as des guidons qui se touchent avec tes concurrents. T'es entouré des champions, on va dire.
Donc c'est le touquet.
Ouais, c'est le touquet. Donc tu te dis, putain, on n'arrive même pas à rouler en ligne droite. Touquet, tant pis, allez, on se dit, on les laisse partir. Et je les laisse partir.
Oui.
Et si tu veux, à un moment, je me rends compte qu'ils ne roulent pas si vite que ça. Alors, je dis, allez, je vais en remettre plus et je vais aller les chercher.
Tu vas leur montrer ce que tu sais faire.
Du coup, j'ai ouvert.
Ce que t'as dans le ventre.
Je me suis mis à regarder les pilotes de loin sans regarder la route. Et je me suis pris en un trou. Donc
et là, tu te prends une pelle, mais alors phénoménale.
Bah, à 120 km/h, en fait, j'ai pris un petit trou, je me suis fait éjecter de la moto à 120 km/h. Donc là, j'ai bien roulé. Donc si tu veux, la moto a continué toute seule. Il n'y a eu aucun dégât sur la moto. Elle s'est posée tranquillement. Donc j'ai fini l'étape avec quelques douleurs. Et ça nous a bien prouvé qu'il ne fallait pas faire la course. Il
fallait pas faire le con.
Pendant les 12 jours de l'Africa, on a vraiment... pour aller vite, il fallait aller moins vite. C'est ce qu'on a fait. Sinon, on n'aurait jamais fini.
Alors tu dis que c'est dangereux. Hein. C'est quand même,
c'est la roulette russe.
C'est la roulette russe.
Il y a une grosse part de chance.
Ouais.
Rattraper avec l'expérience, la même tôle que j'ai pris à 120. Si j'étais debout sur la moto, je serais pas tombé, à mon avis. Là, j'étais assis, donc je me suis fait éjecter, catapulter. Donc il y a des choses qu'on évite. Par contre, il y a trop d'imprévus. Il y a trop d'imprévus.
Voilà, il faut avoir une énorme expérience du terrain africain, des pistes africaines.
Non, mais tu vois, les mêmes Tarès,
le favori qui est parti au bout de deux jours.
Au bout de deux jours, il est parti en hélico. Hein, donc il y a toujours une part de chance, quand même. Qui n'est pas négligeable.
On passe à un morceau de musique et puis on termine sur cette aventure-là. Hein, parce que tu nous diras si tu vas repartir l'année prochaine. Enfin, oui.
Prochain projet.
Non, on verra. Prochain projet. Hein, tout de suite après le morceau de musique, Steve.
Cry into slow, we can deep to this place.
Voilà, pour terminer sur cette édition, la 16e édition de l'Africa Eco Race, dont tu as participé, Steve, entre les voitures, les camions, les motos, ça se passe comment ? Une bonne ambiance ?
Il y a une super ambiance entre les motos.
Entre les motards.
Il n'y a pas de pilote pro, de pilote amateur, on est tous dans le même bain et tout le monde est prêt à se donner un coup de main. C'était vraiment une super ambiance. Après, avec les 4 roues, alors c'est un peu différent. Mais bon, ils n'étaient pas beaucoup, les voitures.
Ils troulent dessus si jamais t'es par
terre. Ils n'ont pas dérangé. Il y a eu des petites remarques parce que, en fait, quand tu prends le départ, les voitures vont plus vite, donc ils partent après. Donc nous, on est limité à 150, ils étaient limités à 168. Et si tu veux, donc la plupart du temps, si tu traînes un peu, oui, tous les jours, ils te doublent.
Ils te doublent, oui.
Donc si tu veux, bon, ils ont des boutons appuyés pour te dire de te mettre sur le côté. Et souvent, t'as pas le temps de t'y mettre, qu'ils te passent, quoi. Ils se sont pris une paire de remarques parce qu'ils passaient fort proche. Donc après, ils essayaient de passer plus loin. Mais c'est vrai que là, quand une voiture te passe, t'as une traînée de poussière sur des
kilomètres. Derrière, oui. Hein.
Ouais. Là, t'es obligé d'attendre. C'est énorme, la poussière qui soulève.
Et comment tu fais pour vous avez des tir-off ou
Non, on n'est pas gêné, la poussière ça accroche pas sur les masques. Non. Donc c'est juste ça te trouble la vision en fait, mais on n'a jamais été embêté par nos équipements, on va dire.
Voilà, et donc on parlait du lacrosse tout à l'heure, c'est l'arrivée, c'est l'arrivée mythique du Dakar.
Exactement.
Hein. Voilà, ça se passe comment donc une fois que c'est terminé là, quand tu passes la ligne d'arrivée?
T'es content? T'es content d'être arrivé?
Tout le monde s'embrasse?
Non, tout le monde
est
content.
Papa était là?
Papa était là, ouais. Non, mais tout le monde est vraiment content.
Ils faisaient signe, on est là.
Certains leur famille qui l'attendait. Hein,
il y a la famille qui...
venir.
Donc
ils avaient proposé des formules comme
puis
ça.
Il y avait un beau podium, tout le monde passait avec sa moto.
Il y avait un beau podium, mais c'est vrai que tout le monde se félicite, tout le monde est...
Et content.
Tout le monde est content, ouais.
D'être toujours vivant.
Ouais, exactement.
Oui, c'est à ce point-là. Ah oui, vraiment.
D'être arrivé,
vous avez l'impression que c'est vraiment...
C'est très, très dur.
C'est dur.
À finir, c'est très, très dur. Parce que même quand on a les jours de repos...
Tu t'es fait peur quand même.
On s'est fait peur. En fait, les muscles sont tétanisés. Et même quand on s'est pris des jours de repos, il y a un moment où on a un jour de repos ou deux au milieu, là. Et si tu veux, tu te dis, t'as l'air en pleine forme. Au final, tu reprends le départ. Au bout de 10 km, tes bras sont tétanisés. Donc les muscles, si tu veux, ils sont... Il leur faut, je pense, une paire de semaines pour se remettre.
Ouais.
Donc c'est vrai que t'es content d'arriver parce que t'as du mal à tenir la moto, quoi.
Alors moi, je te dis, je peux te donner une date pour l'année prochaine, 2026, pour le...
Ouais.
Tu repars, il paraît.
Non, pas du tout. Non, c'était vraiment chouette. Mais ça s'est vraiment tellement bien passé
Tu vas pas dire faut pas jouer au con.
Forcément, on aurait envie de faire mieux. Ouais. Et on pourrait. Ouais. Mais on pourrait surtout faire pire.
Oui.
Donc le
14e déjà sur combien
des 80 par 80 par temps.
Ouais. Et 3 fois dans le top 10.
Ouais, c'est quand même pas mal. Sur la fin. Et c'est vrai
pour une première, pas connaître, avoir fait de rallye, pas de motocross.
Pas connaître la moto.
Pas connaître la moto.
Non, c'était vraiment
pas de navigation, pas d'expérience en navigation.
Non.
C'est bravo.
C'est bravo quand même. Écoute, Steve, chapeau quand même. Franchement.
On n'y croyait pas.
Donc c'est du 25 janvier au 7 février. T'as encore le temps de te préparer. On est au mois de mars, fin mars.
Non, mais tu te prépares pour autre chose. Tu te prépares pour autre chose.
Non, alors te prépare où tu peux pas. Dis-nous ce que tu vas faire.
Moi, on avait prévu de faire un peu light, mais c'est encore à cause de Lolo Cochet que j'ai pu rencontrer là-bas d'ailleurs. Et avec un autre mec avec qui j'ai roulé, je me suis tiré la bourre du coup pendant les 12 jours. C'est James Simonin. Du coup, c'est l'organisateur du Hard Défi Tour. Du coup, il avait l'air tellement bien que je me suis dit on va aller le faire, son petit rallye. Et donc en fait, il organise le Hard Défi Tour, c'est une course d'enduro du coup sur un week-end qui lui permet de financer son Dakar à lui. Donc on est 300-400 participants. Et en fait, c'est une course d'enduro interdite aux motos d'enduro. Sauf pour
les
femmes, les vieux et les handicapés, quoi.
D'accord.
Donc, sur le papier, ça me plaisait, sa course. Donc on s'est inscrit, on s'est dit toujours avec mon pote Charles, du coup on s'est inscrit pour le défi en 500 XT. Parce que c'est pas considéré comme une enduro, c'est considéré comme un trail. Donc on a 800 km à faire sur 2 jours. Donc forcément, tu roules un peu de nuit, parce que c'est du hard enduro et monter beaucoup. Donc nous, je pense que ça va être aussi un gros défi. Donc là, la moto est arrivée chez papa pour la mettre à jour, on va dire.
C'est du 6 volts.
Et on connaît tous papa, Bruno Perneschi, un bon mécanicien.
Pour l'éclairage, c'est du 6 volts.
C'est pour ça. On va prendre une petite lampe frontale, je pense que ça sera mieux au cas où.
Et Steve, puisque tu parles de 500 XT, t'imagines que les premiers Dakar. Les vainqueurs, c'était.
Cyril Neveu.
Cyril Neveu en
Auriol avec une BM.
C'était des vrais, ça.
T'imagines un peu ce qu'ils ont fait là.
Ah ouais, l'art démarré.
Parce que. Pas de démarreur électrique.
Et pas de. Oui, alors au kick.
Au kick.
Et quand t'es ensablé.
C'est vrai que c'était tout confort. Hein.
Ouais, tu pourrais refaire l'Eco Rice avec une 500 XT.
C'est aussi dans les tuyaux. C'est aussi dans les tuyaux. Après, bon, on s'est rendu compte qu'y aller par ses propres moyens, l'Afrique, bon, c'est quand même un peu. Là, on était bien encadré. Et bon, le faire par soi-même, c'est possible. Mais c'est aussi prendre des risques.
Ouais. Au niveau quoi de la sécurité au niveau
plus la sécurité
des gens que tu rencontres
exactement
la Mauritanie
faut faire attention
pas top
d'accord bon Bruno et toi l'expérience d'assistant ta première expérience je rappelle que vous êtes alors la première fois pour Steve la première fois pour toi
Bruno le deuxième parce qu'il était déjà venu s'entraîner au Elastrali
j'avais fait l'Elastrali avec
oui parce que toi aussi il fallait que tu t'entraînais un peu
moi je connaissais pas du tout les KTM les motos modernes moi je connais que les vieilles motos donc je suis plutôt anglaise tu vois avec les
clients plutôt anglaise
donc là bon les motos les KTM bon, c'est super super moto on a eu aucun problème avec les motos aussi bien les moteurs
pas de casse moteur
c'est des super bécanes et super costauds en fin de compte tout ce qu'il y avait à faire c'était de l'entretien quoi hein, filtre à air vidange et les pneus quoi hein. Et donc, nous, il nous a traîné un petit peu dans l'aventure hein, avec Bruno Avio là pour conduire le camion. Et non, une sacrée aventure. Hein, d'ailleurs, tous les jours, on avait quelque chose, une nouvelle aventure tous les jours. Quoi.
Comment ça marche le matin? Vous avez le petit déj? C'est l'organisation qui prépare ça?
Ouais, t'as un départ. Ton départ est donné la veille vers 20h. En fait, t'apprends l'ordre de départ.
Ouais.
Donc si tu veux en fonction de ça, tu essaies de te lever 1h30 avant, en fait, le temps de te lever, souvent entre 5 et 7 heures on va dire. Et du coup, tu sais que tu pars pour la journée, t'as pas de pause repas, en fait, t'as une pause pour grignoter, mettre de l'essence, mais du coup en fait tu te lèves le matin et tu manges une plâtrée de pâtes.
Pas de carbo tous les matins.
Parce que le midi, t'as pas le temps d'arrêter.
Le midi. En fait, t'as une pause ravitaillement. Ouais. Du coup, en fait, où tu dois mettre de l'essence, pisser, boire un coup. Ouais. Et en fait,
tu repars aussi.
Ça sonne, tu dois partir. T'as pas le temps de t'asseoir.
Tu fais les niveaux et les vidanges.
Les ravitaillements, tu fais rien du tout.
Je sais pas, on peut rajouter. En gros, allez, à la louche, le budget. Oh là là, il fait une grimace.
Le budget minimal, à la louche, une inscription, c'est entre 10 et 12 000 euros.
12 000 euros, ouais.
Donc ça, c'est si tu veux faire en mal moto. Rien que pour l'inscription.
Ouais.
Donc ensuite, tu rajoutes, même si tu le fais en mal moto, tu vas rajouter 1 000 euros pour transporter ta malle, tu vas rajouter 1000 euros de location de balise GPS, tu vas rajouter donc.
Oui, parce qu'il faut, il faut à chaque fois rajouter
forfait essence,
1000, 2000 euros. L'essence aussi, le forfait essence.
Forfait essence en Mauritanie, parce qu'il n'y a pas de pompe à essence ou de qualité moyenne. Donc ça te revient à aller, si tu veux le faire par toi-même, avec tes outils, tu t'en sors entre 20 000 et 25 000 euros. Maintenant, si tu veux reprendre une assistance, même si c'est un copain, forcément, tu repayes une inscription pour le véhicule.
Pour le véhicule, oui.
Donc ça 15, peut vite 15, 16 doubler, 000, tripler. Et on parle pas des motos et des équipements, quoi.
Donc là, tu comptes aussi le camion, l'essence pour les camions.
C'est pas tellement l'essence, hein, c'est surtout le trajet, le bateau. Hein, donc
Et trajet aussi bateau.
C'est l'Africa Corrèze qui s'occupe de tout ça, mais il faut les payer. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a pris d'autres pilotes. Tu veux, on s'est occupé d'autres pilotes pour minimiser les coûts l'inscription du camion.
Et l'achat des motos aussi.
L'achat des motos,
c'est aussi.
L'achat des motos où tu peux récupérer aussi une partie de tes sous, c'est de l'investissement, mais normalement, si tu t'es pas satellisé et que la moto est entière, bon, tu récupères quand même une partie.
Et les pièces détachées.
Oui,
parce que bon.
Oui, il faut acheter aussi
le. On a pris tout ce qu'il fallait.
Pour la réparation éventuelle.
Tous ces trucs-là, levier de frein, mettre cylindre,
tout ce qui peut casser, hein, que pour
la
chute,
tout pris d'avance, les jantes, ça reste du consommable sur ces motos-là parce que les pierres qu'on prend, en fait, t'as beau prendre les jantes que tu veux, ils plient tous pareil.
Ça casse.
Donc là, on a cassé un peu les jantes, tu peux finir avec, hein, mais on a quand même explosé les jantes, quoi.
Bon, écoute, je te redonne la date quand même du prochain Eco Rice pour 2026. Au cas où, si tu changeais d'avis.
S'il y avait une catégorie vintage, peut-être.
Ah, tu le ferais.
Peut-être que ça changerait.
Ouais.
Mais bon.
Peut-être. Très bien, bah, c'est le 25 janvier au 7 février, c'est plus tard c'est, en 2026. Ouais, parce que là, c'était tôt.
En fait, à mon avis, décembre, hein, et les dates sont un peu simples aussi, c'est que peut-être qu'ils ne veulent pas chevaucher non plus le vrai Dakar, parce que beaucoup de pilotes maintenant souhaitent faire les deux.
Oui.
Que ce soit pour les couvertures ou même les assistances, en fait. Ça pose des problèmes à beaucoup de gens que ça soit en même temps.
Il y a des pilotes qui font les deux Dakar.
Bah, qui souhaiteraient. Ouais, ah ouais, non, mais les assistances, en fait. Il y a des assistances qui doivent faire un choix, aller sur l'un ou l'autre.
Bon ben Bruno, voilà. Merci d'être venu. Hein. Vas-tu rester avec nous hein, parce qu'après on part en Chine.
Ah super.
Avec qui voilà. Pour voir un film.
Ah,
enfin, on va rester dans les studios, mais c'est un film chinois.
C'est dans le désert.
C'est pas... dans le désert du.
C'est dans le désert de Gobi. Ouais, de Gobi. Ouais, effectivement, t'as raison. C'est ça. Merci Steve. Hein. Ah, tu restes avec nous quand même. Hein.
Oui, bien sûr.
Bon, et on passe à un morceau de musique. On se retrouve juste après. Bon, c'est quoi, Yves, ce film-là, Black Dog, hein, tu m'as mis l'histoire d'un homme, d'un chien et la moto.
Oui.
Forcément, la moto. Hein,
oui, c'est très résumé, oui.
Les
un
chiens,
homme, un
c'est
chien,
pas
la moto, le désert de Gobi, la poussière.
Oui. Oui.
Une ville de l'ouest de la Chine, c'est le western là-bas. Hein. Et d'ailleurs, bon, c'est un film de Wu Wang qui a été présenté à la Festival de Cannes de 2024 dans la sélection Un Certain Regard qui a été primé. Et c'est vraiment un film chinois, hein, donc avec estampillé par le gouvernement chinois. Et c'est un film de, donc, avec une bande originale qui surprend sur la fin parce qu'on a Dogs de Pink Floyd de l'album Animals qui va bien aussi. Et quand on reprend les vidéos de Dogs, on dit tiens, il y a quand même un peu d'inspiration, de choses, d'ambiance, de concept un petit peu. Et bon, le synopsis, c'est un gars qui fait des cascades moto, qui est une célébrité locale, qui fait des numéros à base de moto, et qui il revient dans sa ville après 10 ans passés en prison pour le décès d'un autre motard aussi. Il était le seul présent, donc il a été accusé, il a été condamné. Il revient après 10 ans de prison pour bonne conduite. Et puis, il revient dans sa ville et les usines sont fermées. C'est comme en Chine, hein, ça se construit très vite et ça, il bouffe tout. Et puis, une fois que tout est mangé, il faut se débrouiller. Quoi. Donc, surtout à l'intérieur de la Chine, toute la côte chinoise, c'est très, très développé. L'intérieur de la Chine, ça peut être très pauvre et les gens se débrouillent beaucoup par eux-mêmes. Donc il rentre dans sa ville, les usines sont fermées, les anciens bâtiments ils sont tout décrépis, mais ça on voit beaucoup en Chine, hein, beaucoup de poussière, beaucoup de bâtiments un peu décrépis. Et puis les gens se débrouillent, il reste les vieilles personnes, il reste les laissés pour compte un petit peu, et il y a toujours la structure, la police, l'hôpital, mais bon avec les moyens du bord. Et voilà, donc il rentre de sa ville et ça commence là-dessus. Donc ça commence, la première scène c'est très western. On voit alors c'est filmé en plan large quoi, on voit tout le désert de Gobi, on voit la piste avec les broussailles là qui roulent un peu comme dans le western, et puis on voit le taxi qui arrive, le minibus qui arrive sur la piste, et puis d'un seul coup
il se retourne. Il fait un tonneau, c'est ça?
Oui, non, mais d'un seul coup, on voit ça de haut, quoi, de loin,
oui.
Et d'un seul coup, on voit tous les chiens vraiment une meute de chiens énorme, quoi, qui déboule des collines et qui passe à travers tout ça. Et le gars, il perd le contrôle de son véhicule et il fait un tonneau.
Ouais, il fait un tonneau. Non, c'est parce que.
C'est l'attaque de la diligence.
Il y a des bandes de chiens errants hein, qui ont investi la ville, hein.
Alors, ils n'ont pas investi la ville, c'est simplement que comme toute la population est partie...
Oui. Ils ont laissé les chiens.
Ils ont laissé les chiens derrière eux. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc, il ne reste que les chiens. Et c'est un peu... et dans le film, dans Animals, Pink Floyd, c'est aussi une histoire de... On voit ces bandes de chiens aussi. Donc, il y a les chiens qui sont là. Donc, après l'accident, forcément, il y a un petit problème d'argent quelque part. Donc, ils sont tous embarqués par la police et la Chine, hein. Donc on contrôle tout, dans ces pays-là. Tout est contrôlé, donc tout le monde doit passer par la police. Lui, forcément, ayant fait de la prison, il est déjà mis à part, il est fouillé à corps, rien ne se passe, il s'en va. Il va rentrer, il traverse la ville, et là, on voit donc cette ville qui commence à être délabrée, les bâtiments qui sont vides. Il rentre chez lui et il rencontre un chien un peu bêtement. Quoi. Il s'arrête pour soulager un petit peu. Il repart, il voit un chien qui sort d'un trou, qui va exactement à l'endroit où il a été. Et le chien qui marque son territoire à l'endroit où lui s'est soulagé. Quoi. Il se retourne, le chien qui commence à grogner, qui lui court après. Ça, c'est assez humoristique de ce côté-là, où il y a un peu d'humour, mais enfin, c'est un peu ça. Et puis, il rentre chez lui et il va découvrir... chez lui, il n'y a plus que les vieilles personnes qui sont là. On lui ouvre la porte parce que son père, il est parti. Son père, il est devenu un peu... il a quitté la maison, il s'occupe d'un zoo. Donc, son père est parti. Donc, il retrouve sa maison un petit peu familial. Et puis on voit qu'il découvre, voilà, l'une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il découvre un peu les meubles et tout ça, des draps qui sont au-dessus. Il rentre dans son atelier, enfin il casse la porte de l'atelier pour entrer, il redécouvre sa moto, une grosse moto de cross, tu vois, un petit peu...
Et puis, un peu comme la moto de
cascade, quoi. Sa moto de cascade, quoi. Et puis, bon, là-dessus, ça s'enchaîne un petit peu. Donc, il y a les vieilles personnes qui sont là. Et on voit que la moto, c'est à peu près le seul dérivatif qu'il a, quoi. Donc, comme il est aussi sortant de prison, bah, il est obligé d'avoir des séances de rééducation. On pense à la rééducation politique un petit peu en Chine, mais aussi il est aussi un peu... il y a une certaine solidarité, quoi. Les gens qu'il connaissait avant, il l'accueille. On sent que c'était le bon gars, quoi, que c'était pas... On se demande pourquoi il est assassin, quoi. Mmh. Donc il y a une certaine solidarité autour de lui. Et ça, c'est en Chine, hein. Il y a quand même un sens de l'hospitalité qu'on a dans ces pays-là, qu'on a perdu chez nous, quoi. Si t'as rien, tout ça. Tu peux être dépouillé, mais tu seras aussi facilement dépanné, quoi. Donc il y a ce sens de l'hospitalité, ce sens de l'humanité qui est là, et on lui trouve un travail obligatoire. Qui est obligé de faire, parce que la ville elle va être reconstruite, on va refaire ça, on va essayer de réaccueillir des usines, et donc il faut ramasser tous les chiens. Et lui, c'est pas son truc, c'est pas un job très, très joyeux, quoi, dirons-nous. Donc il essaye de faire ça bien, et du coup il se retrouve un petit peu à part, et lui, à chaque fois qu'il a l'occasion, il essaye d'épargner soit les chiens, soit les propriétaires de chiens, parce que là, obligatoirement, il faut tout déclarer son chien, il faut payer, mais il y a beaucoup de gens pauvres qui ne peuvent pas payer, donc il faut faire ces choses-là. Donc il y a toute cette humanité qui est reprise. Ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est les paysages. On montre une Chine qui est une Chine... alors c'est assez curieux, parce que ça se passe au moment des Jeux Olympiques. Alors on a... les haut-parleurs et toute la communication officielle sur les Jeux Olympiques qui vont se passer, et on se retrouve dans une ville où il n'y a pas de travail, où il n'y a rien, où les gens ils sont laissés pour compte, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Ils doivent tellement se débrouiller par eux-mêmes que même la police elle est assez conciliante pour essayer de trouver des combines pour les gens, quoi. Voilà. Donc il y a d'autres choses qui sont... Il y a l'amour filial aussi qui va, parce que son père, il est devenu alcoolique. Il s'occupe du zoo du coin. Et donc, dans le zoo du coin, il y a aussi beaucoup de symboles. Hein. Il y a un tigre de Mandchourie. Le tigre, c'est le symbole de l'opposition au Japon dans la dernière guerre. Il y avait un loup gris qui était là. Le loup gris, c'est aussi le symbole de Gengis Khan à l'époque. Hein. Donc, ça s'appelle le loup gris. Et c'est l'esprit qui rôde aussi dans la plaine. Donc, il y a aussi la mafia qui est là. Enfin, la mafia, un genre de mafia. Les gens de l'ancienne famille des personnes qui s'est tuée, on apprend après qu'il s'est tué, qui veulent se venger, qui veulent respecter un petit peu, qui ne supportent pas qu'ils reviennent, quoi. Donc, c'est un boucher, mais qui élève des serpents et qui... Bon, il y a toute une histoire là-dessus. Et puis, il y a une histoire aussi avec le fait qu'il va retrouver quelqu'un.
Il dure combien de temps, ce film, alors ?
Il dure à peu près 2 heures. Il dure à peu près 2 heures. C'est vrai que la mise en place est assez longue.
J'ai vu les avis de certaines personnes qui ont été le voir. Et il dit, c'est un peu long. Oui, parce que tu n'as pas encore parlé de moto.
J'ai pas encore parlé de moto.
Non, mais là, il est trop tard.
Donc, il va rencontrer son chien.
Son chien, voilà. Il va adopter un chien.
Non, il n'est pas adopté un chien. Il est mordu par le chien. Le chien est censé avoir la rage, donc on les enferme tous les deux dans un coin, ce qui est le coin de la... Donc le chien et l'homme s'apprivoisent, c'est les deux laissés pour compte qui s'apprivoisent. Le chien va être vraiment fidèle et vraiment attaché à l'homme. Voilà, et il va bricoler sa moto, il va faire un sidecar, voilà. Il va transporter
le chien. C'est ce qu'on voit dans le film.
Transporte le chien en moto, et puis il y a tout un tas d'aventures qui se passent avec le chien. Le chien, il lui arrive quelque chose de... Bon, il va mourir avant la fin. Et il y a quand même un happy end. Il y a quand même une chose qui fait, c'est qu'il va reprendre goût à la vie grâce à ce chien. D'accord. Il va reprendre goût, il va se resociabiliser aussi avec ce chien, avec les autres et d'autres gens. Et ça se termine assez bien. Et c'est assez prenant à la fin. La fin est assez prenante.
C'est au Majestic, donc.
C'est au Majestic. Et à la fin, on voit un homme qui veut... Alors, c'est marrant parce qu'il essaye de refaire des cascades. Et là-dessus, on voit qu'il se plante ou des choses comme ça. Mais c'est avec beaucoup d'humour, quoi.
D'accord.
Tu vois, la moto qui tombe. Puis tu vois qu'il repart brinque-ballant, quoi, plus ou moins, comme ça. Et ça, c'est assez...
Il n'y a pas de
chichi, quoi.
Alors, c'est, on ne peut pas voir ça dans tous les cinémas, ce film. Hein,
Non, quoi. Alors, ça se passe au Majestic en ce moment à Lille, et c'est en VO.
Ouais.
Et donc, il y a très peu de salles à regarder. Hein. Mais c'est vraiment un très beau film.
Bon.
Et la bande-son...
Et si vous avez deux heures
à passer...
Et
à passer.
La bande-son qui arrive...
Vous allez dire à perdre. Non, à passer.
À passer, pas à
Bruno.
Est-ce qu'il y a assez sur...
L'excès de Steve à remonter.
Oui, tu as du boulot.
C'est très poétique aussi. Les images sont très belles. Et la bande-son, ce qui est pas mal, c'est vraiment quand tu arrives sur la deuxième partie du film, certaines scènes, tu as la musique de Pink Floyd qui arrive... tout doucement qui s'installe et ça
c'est un poétique il rêveur un peu tu vois voilà
ça merci, parle la même génération voilà. Quoi.
Non, on passe plus de morceaux de musique parce qu'on voulait parler un peu du début de saison MotoGP avec la domination hein, si championnat du monde se passe comme ça si tous les week-ends toutes les courses ça va pas être facile parce que Marc Marquez en Thaïlande premier, Alex Marquez pareil deuxième, en Argentine pareil et puis je crois qu'il y a 74 points déjà Marc Marquez alors qu'il n'y a que deux courses qui ont été faites.
Ouais, donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'on va bien s'ennuyer cette année quand même.
Ah bon, on s'est emmerdé
hein, parce que c'est vrai que dimanche dernier j'ai regardé le MotoGP d'Argentine. Et à un moment, je me suis dit, mais ils se foutent de nous, c'est pas possible, ils nous repassent le replay de la Thaïlande.
Ouais.
Hein, c'était pareil, les deux frères Marquez devant. Et alors après, ils font juste semblant de s'arsouiller. Parce que en fait, Marc ne fait qu'utiliser son frère pour faire remonter la pression de ses pneus.
Bah oui, c'est quoi cette histoire là?
Il faut respecter.
Il reste derrière son frère à trois tours avant l'arrivée.
Il y a une nouvelle règle cette année, il faut respecter 1,8 bar de pression pendant 60% de la course. Et avec l'électronique, c'est mesuré en temps réel. Sinon, c'est 16 secondes de pénalité. 16 secondes, c'est énorme. Tu perds 10 places. Hein. Donc, c'est débile parce que, en fait, la température du pneu fait que la pression change.
Ouais.
Hein, c'est physique. Donc, quand tu es premier, tu as forcément de l'air plus frais et ta pression baisse.
Ouais.
Mais lorsque tu as quelqu'un devant, bah, ton pneu chauffe et la pression monte. Alors, Marc, comme on est pénalisé si on est premier, il laisse son frère passer devant. Et puis pendant la moitié de la course, puis après quand il a fait son topo et que son quota de température est arrivé, il fait ça à chaque fois.
Il le
fait avec son frère parce que son frère est juste derrière et que ça passe quoi. Il ferait quelqu'un d'autre, ça serait plus gênant.
Ouais.
Et donc en fait c'est plus de la course, c'est du théâtre. Hein.
Du théâtre alors.
C'est du théâtre, ouais. Et comme témoin privilégié, c'est le pauvre Pecco Bagnaia hein, qui est incapable de suivre le rythme de la fratrie Marquez. Et en fait, Pecco Bagnaia, il a déjà pris 34 points de perdu sur Marc Marquez en deux week-ends.
C'est énorme. Attends, on a un autre passionné de vitesse qui normalement est au téléphone. Balou ?
Oui.
Ah bah oui, tu vois, Balou. Est-ce que tu as entendu ce que Nico vient de dire ?
Oui, tout à fait. Je suis parfaitement d'accord avec lui. La seule différence, c'est que je ne m'attendais pas à un Alex Marquez aussi incisif, bien qu'effectivement son frère se sert de lui. On attendait Marquez, mais pas à ce point-là. Moi, en dehors de ce qu'a déjà dit Nico, je pense qu'il y a aussi, il faut aussi parler d'Ogura, qui est vraiment surprenant d'efficacité en tant que rookie. Le retour de Morbidelli, qui est quand même là aussi, et Ogura est sur une Aprilia.
Attends, Balou, parce que là, ce qu'on voulait dire, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est que on voit Bagnaia qui peut rien faire.
Non.
Il vient même pas se roter au frangin, Marquez.
Non, il réclame la moto de l'an dernier.
Il faut se mettre.
Ouais. Il a demandé à avoir la moto de l'an dernier. Il est perdu. Hein. Ouais.
Ouais.
Il faut se méfier.
Vas-y.
Il faut se méfier de Bagnaia. Bagnaia, il prend son temps. En tout cas, il a toujours été comme ça. C'est un constructeur. Et je pense qu'il faut se méfier de lui. On est quand même à l'extérieur de l'Europe. Hein. Donc ça peut être un problème quand ils vont revenir.
Tu crois? Bah, j'espère. Hein.
Et puis il faut dire aussi que Jorge Martin, le champion du monde en titre, il est pas là. Hein.
Pour l'instant, il est pas là.
Il a pas encore fait un seul trou de roue cette année avec l'Aprilia qu'il découvre. Il est tombé deux fois cet hiver lors de la première journée d'essai à Sepang. Et ensuite, alors qu'il n'était pas encore remis, il avait fait un entraînement en Espagne et il s'est pris cette fracture.
Hein. Ouais.
Pied gauche, main droite et surtout le poignet gauche. Et normalement, il devrait revenir au Qatar.
Moi, je suis très surpris aussi de Zarco. Hein, alors que la Honda a été bien dépassée l'an dernier, moi, je trouve que c'est quand même une belle prestation, quoi.
Ah bah oui, c'est sûr. Il nous a fait retrouver le sourire. Hein. Il faut parler de Zarco. Il nous a bluffé en Argentine. Hein. C'est un circuit qu'il aime bien. Hein. Mais il a fait deuxième en FP1, troisième en FP2, troisième en qualif, départ en première ligne, quatrième au sprint et cinquième en course, c'est première non Ducati. Hein. Donc, on espérait un podium, bien sûr, hein, quand on le voit en forme. Mais bon, compte tenu de son matériel, c'était du grand.
Par contre, son coéquipier, lui, c'est pas ça. Hein. Chantral.
Ah ouais, Chantral, bah ouais, Chantral.
Il est avant-dernier.
Ah ouais. Chantral, il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve.
Il faut qu'il pleuve.
Mais l'on dort en
bonheur. Et Zarco, c'est le plus vieux sur la grille maintenant. C'est 34 ans. C'est lui le plus vieux.
Ça sent la retraite, ça.
Ouais. Bon, les
coureurs en rouge avancent aussi. Alors, oui, en fait, chez les Japonais, on s'attendait à un sursaut chez Yamaha, mais la galère, elle continue quand même hein, pour Quartararo. Le sursaut, c'est Honda qui l'a fait. Hein. Les résultats de Mir et de Zarco, ils sont partis, là, ça y est. Hein.
Bon, le week-end prochain, c'est Austin.
C'est chez Marquez.
Chez Marquez.
Le week-end prochain, c'est
ça va être chiant encore.
C'est aux USA, c'est chez les tarés. Hein.
Ouais.
Trump, il vient de supprimer le ministère de l'Éducation. Ouais. Il a dit que ça sert à rien parce que les riches, ils vont dans le privé et les pauvres. Pourquoi dépenser des sous pour les pauvres. Et pour les instruire. Enfin, s'ils sont pauvres, c'est qu'ils sont cons.
Bah oui. Hein,
Vive l'Amérique. Et effectivement, prochain GP, c'est à Austin. Et donc,
s'ils sont pauvres, c'est qu'ils sont cons. Bah oui, ils n'ont rien compris.
Il y en a un qui a toujours mis la pâtée à Austin à tout le monde. C'est qui, la miche?
Ah bah c'est Marquez.
Ah bah ouais, voilà. Donc on n'a pas fini de revoir le même
film. C'est pas la peine de regarder, compris.
On n'a pas fini de revoir le même film.
Oh merde, non, c'est con ça, vraiment. Tu suis.
Ah bah je suis tout, bien sûr. Chaque séance d'essai. Et c'est vrai qu'à Austin, le trou va encore s'accentuer avec Bagnaia.
Ouais, ok, bah oui.
Il va tout rappeler.
Moi, ça m'inquiète, hein, franchement. Ça m'inquiète fortement.
Ben, le meilleur pilote sur la meilleure moto, maintenant, on sait exactement.
Voilà.
Et son frère, il s'entraîne avec le meilleur pilote sur la meilleure moto. Donc, il bénéficie aussi de tout ça. Hein. Ce qui est étonnant, c'est surtout Alex Marquez, hein, qui est vraiment aux avant-postes.
Alors, on espère revoir Martin, donc c'est au Qatar, normalement. Hein, on revoit le Qatar. Et le Qatar, c'est dans 15 jours, je crois, c'est ça?
C'est
après les USA.
Il va avoir du mal. Hein.
Et après, en espérant aussi que sur les circuits européens, ça va changer peut-être.
Ouais. Oui, je pense que oui. Honnêtement, je pense que oui.
Et c'est vrai que la surprise, c'est en Thaïlande, c'était Ogura, hein, parce que le Japonais, qui était vainqueur en Moto 2 l'an dernier, il découvrait le MotoGP avec son Aprilia, une moto qui est pourtant réputée difficile.
Ouais.
Et puis voilà. Il a impressionné tout le monde.
Merci Balou d'avoir nous avoir rappelé. Hein.
Ok, le point en
Aprilia. On fera encore une petite séquence plus tard dans notre émission. Salut. Merci Steve hein, pour nous avoir raconté toute cette belle aventure là.
Et bravo encore.
Ouais. Et bravo encore.
Ouais,
hein,
chapeau.
Ouais, chapeau.
On applaudit aussi.
Chapeau. Et Bruno, merci de l'avoir aussi d'avoir suivi.
Il y avait du taf.
Merci Yves pour Black Dog.
Oui, de rien, ça change.
Et merci Nico pour ces infos de Grand Prix. Hein,
merci voilà. Amiche.
Allez. Et pour terminer cette émission, on remercie qui
hein Laurent.
Bah, Laurent. Laurent, bien sûr. Voilà. Allez, passez un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain, 11h sur les ondes de Campus. Salut.